Prenons nos Bibles et regardons de nouveau dans l'Épître aux Hébreux, le chapitre 13. Aujourd'hui, mon texte est à partir du verset 7 jusqu'au verset 17. Et j'ai intitulé ce message simplement « À la suite du Christ ». Ceux qui sont enfants de Dieu, Dieu leur donne cette soif de connaître Christ, et plus nous croissions dans la grâce de Dieu, plus nous désirons le connaître davantage. Alors l'exhortation que nous avons ici dans ce texte concerne la poursuite de Christ avant tout. Et ça commence ici, je vais lire ces versets. À partir du verset 7, « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. » Et là, quand je lis « la parole de Dieu », je vois le P en majuscule, parce que la parole de Dieu n'est autre que Jésus-Christ lui-même. Ce qui est prédicateur fidèle, il annonce la parole de Dieu, c'est-à-dire Christ, à ses auditeurs. Donc ici, l'écrivain aux Hébreux dit de se souvenir de leur conducteur, les responsables de l'Église qui vous ont annoncé la parole de Dieu et considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Jésus-Christ. Et voilà ce qui est la fin de leur vie, ou bien le but. Quand c'est écrit la fin de leur vie, le but de leur vie n'est autre que, verset 8, Jésus-Christ est le même, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères. Donc voilà l'exhortation d'avoir toujours les regards sur Christ, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce. Ce n'est pas simplement une information que nous avons au sujet du Seigneur Jésus-Christ, mais que le cœur soit affermi par la grâce. Ça, c'est l'œuvre de l'Esprit qui régénère d'abord le cœur et puis fortifie le cœur face à tout. Et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. Quand ça parle des aliments, ça parle en contraste avec la grâce de Dieu, ceux qui se sont approchés de ces assemblées pour prêcher le légalisme, pour encore faire revenir en arrière les auditeurs et les soumettant de nouveau sous la loi, dont les aliments concernant la loi sont prêchés. Mais dès nous avons un autel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger. Cela démontre déjà qu'au moment où l'écrivain aux Hébreux écrivait cet épître, qu'il y avait ceux qui continuaient à servir dans le temple. Le temple n'avait pas encore été détruit à ce moment-là. Cela s'est passé dans l'année 70. Mais ils continuaient à offrir des sacrifices comme si rien n'était. Même si le voile était déchiré le jour où Christ est mort sur la croix, eux, ils sont partis réparer ce voile et continuer le service comme autrefois, ignorant que Christ est venu pour tout accomplir et il a tout accompli. Donc cet autel dont il mentionne ici dans le verset 10, quand il dit « nous avons un autel », là il s'agit de Christ. dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger. Voilà la distinction entre ceux qui veulent toujours se soumettre à la loi, comme si la loi peut leur donner l'accès auprès de Dieu. Et donc, ils n'ont pas le droit de manger à cet autel, c'est-à-dire Christ. On ne peut pas avoir les deux. Soit que c'est Christ qui est notre autel devant qui nous venons, ou bien c'est la loi. Et il dit, les corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour les péchés sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre, car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Et n'oubliez pas, ouais, la manière que ces exhortations sont données, ce n'est pas un avis qu'il est en train de donner, mais c'est un ordre, un commandement. N'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Alors voilà le texte que nous avons à étudier ensemble aujourd'hui par la grâce de Dieu. Donc encore le titre, à la suite du Christ. Et premièrement, j'ai 5 points à souligner ici concernant les moyens que nous voyons expliqués ici, que Dieu nous donne pour suivre Christ. Quand on dit à la suite du Christ, c'est de poursuivre Christ en toutes choses. En fait, la vie à la suite du Christ est une entreprise risquée. Lorsque le Seigneur a pu se révéler en nous, dans nos cœurs, peut-être qu'on a imaginé qu'à partir de là, nos vies seraient en paix. Mais la réalité, c'est que le fait d'être attaché à Christ, il y a des dangers, des menaces, le fait d'être à Christ. Et surtout, on peut parler même de nos cœurs. Plus l'Esprit de Christ est en nous, plus nous sommes reconnaissants de l'état de notre cœur et de péché. Et il y a, comme Paul le décrit, cette lutte entre la chair et l'esprit qui est en nous. Donc, ceux qui sont enfants de Dieu régénérés par l'Esprit de Dieu reconnaissent que d'être attaché à Christ vient avec des risques. Non seulement les influences de notre chair dépravée, où cette chair va vouloir nous noyer, si vous voulez, que de continuer à suivre Christ. Il y a aussi les tentations du diable il y a aussi l'opposition du monde, et non pas seulement du monde séculaire dans ce sens, mais nous savons le monde religieux qui s'oppose, exactement comme l'auteur ici écrit ces mots à des croyants du premier siècle qui étaient pourchassés par les hommes religieux, les juifs, les judaïques, et l'esprit d'Antéchrist était en eux. Donc, il y a ce danger d'abandonner cette voie dans laquelle Christ nous a placés, si ce n'est Christ lui-même qui nous garde et qui nous protège. Mais comment est-ce que Dieu garde et protège? Nous lisons dans la Bible concernant la persévérance dans la foi, mais je préfère comprendre ça dans le sens de la préservation dans la foi. Car en nous-mêmes, on n'a aucune persévérance, mais en Christ, nous sommes gardés, nous sommes sauvés. C'est lui qui nous préserve. Et voilà les moyens ici, il y en a 5, je vais souligner, que Dieu utilise pour préserver ceux qu'il a élus et pour qui le Seigneur Jésus-Christ est mort. Et le premier moyen que nous voyons, c'est dans le verset 7. C'est par le moyen, ici il appelle des conducteurs, qui nous annoncent la parole de Dieu. Je crois que le premier sens de ce verset 7 concerne les apôtres qui étaient encore en vie à cette époque, lorsque l'auteur écrivait cette épître aux Hébreux. Et leur but en tant qu'apôtres n'était pas d'attirer l'attention sur eux-mêmes, disant, ah voilà, nous sommes les apôtres du Seigneur Jésus-Christ, donc il faut nous suivre. Non, mais comme c'est écrit ici, nous devons nous souvenir de ces conducteurs qui ont annoncé la parole de Dieu. À ce moment-là, Christ est déjà remonté au ciel. Mais Christ lui-même a dit qu'il ne laisserait pas ses disciples ou bien son église orphelins, mais qu'il a envoyé un autre avocat, qui est l'Esprit, qui devait venir et habiter en eux pour continuer à préserver cette œuvre que Christ a accomplie à leur égard à la croix. Et quand il dit ici, considérez quelle a été la fin de leur vie, cela ne veut pas nécessairement dire que tous ces apôtres étaient déjà morts, mais quand c'est écrit, quelle était la fin de leur vie, quel était l'objectif de leur vie, pourquoi est-ce que Christ les a suscités en tant qu'apôtres? C'était de pouvoir annoncer, continuer l'œuvre de Christ en annonçant Christ comme la parole de Dieu qui est venue dans ce monde, est devenue chair, afin qu'il puisse offrir sa vie. Parce que Dieu n'a pas de sang, Dieu ne peut pas mourir, mais Christ est venu en chair, Dieu dans la chair, la parole dans la chair, comme Jean l'indique dans son premier chapitre, afin de s'offrir pour les péchés de ce peuple que le Père lui a donné. Donc, ces apôtres, ces conducteurs qui sont mentionnés ici, ça, c'était leur but. Ils n'avaient pas d'autre but. Je sais qu'aujourd'hui, les gens veulent se nommer apôtres pour aller ici et là, et prêcher les miracles, la guérison, etc. Cela ne sert pas à Christ, parce que s'ils étaient véritablement de Christ, ils allaient annoncer le Christ comme la parole de Dieu, le sacrifice pour les péchés devant Dieu. Et grâce à son œuvre, les pécheurs justifiés par son sang versé. Et notons aussi dans le verset 7, c'est écrit « imiter leur foi ». Ça ne dit pas de les imiter, parce qu'ils étaient des hommes pécheurs comme nous, mais imiter leur foi. Là encore, comme nous avons déjà vu, la foi qui est mentionnée ici dans les Écritures, il s'agit de Christ. Imiter dans vos conduites ce qui était leur but, leur fin, la fin de leur vie, qui n'est autre que Jésus-Christ, dans le verset 8, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ici, dans notre traduction, ici, dans notre texte, ça met un point à la fin du verset 7. Mais dans le texte original, en grec, il n'y avait pas de ponctuation. Et je crois qu'ici, au lieu de mettre un point là, on continue à lire, imiter leur foi qui n'est autre que Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc voilà le Christ que ceux qui sont suscités par Christ d'aller prêcher sa parole, prêcher Christ, ils n'ont qu'un seul message. Donc, c'est cela que Dieu a suscité pour notre bien, nous qui sommes ses enfants, nous qui sommes les rachetés de Dieu par Christ. Nous sommes à la suite du Christ en suivant les enseignements des apôtres et leur doctrine. Et la doctrine signifie au singulier, exactement comme ici, imiter leur foi. Vous pouvez ajouter là aussi leur doctrine. Nous n'avons qu'une seule doctrine, nous n'avons qu'une seule foi si nous sommes enfants de Dieu. Et ce n'est pas fondé sur des opinions que nous aurons imaginées, mais c'est fondé sur cette doctrine des apôtres au départ et maintenant préservé dans les Écritures pour nous. Donc nous ne sortons pas pour inventer de nouveaux messages pour notre génération. Nous continuons à prêcher ce qui a été toujours. Et c'est ainsi que je souligne le deuxième point concernant les moyens que Dieu nous donne pour suivre Christ. Et c'est ceci, suivre, nous suivons le Christ unique qui est en toutes choses et de toute manière le même. Il ne change pas. Vous savez qu'il y a beaucoup de Jésus qui sont prêchés aujourd'hui selon les plaisirs des gens ou bien leur fausse imagination. Mais tel n'est pas notre cas. Ici, ce qui nous donne la persévérance et qui nous préserve, c'est le principe durable et la nature immuable de Jésus. Il ne change pas. Oh, nous changeons, ça nous le savons, de jour en jour. Si le salut dépendait de nous, alors il ne pouvait pas avoir de salut. Mais voilà ce qui est notre fondement. Voilà la doctrine des apôtres que nous suivons. Nos conducteurs dans la foi, c'est que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ est le même, c'est-à-dire, c'est la nature immuable de Jésus-Christ. Comme il est Dieu, donc il ne change pas. Et même lorsqu'il est venu en chair, il n'a pas cessé d'être Dieu. Il n'a pas changé, seulement Dieu lui a préparé un corps. Donc, comme un habillement, il a pris le corps d'un homme, mais il est toujours le même, comme c'est écrit hier, depuis l'éternité, à l'éternité, parce que c'est écrit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça, c'est toujours la vérité. Et voilà, donc, pas seulement le principe, mais le fondement même de ce qui nous soutient à la suite du Christ, c'est de savoir qu'il ne change point. C'est comme Dieu, lorsqu'il a créé le monde, il a mis tout dans un ordre. Et c'est pourquoi nous pouvons sortir la nuit et toujours regarder les constellations et dire, ah voilà, telle ou telle étoile, tout est en place. Ça ne change pas. Cela depuis la création du monde. Et ça, c'est l'exemple pour nous que lorsque nous ouvrons cette parole et nous lisons ce qui est écrit au sujet de Christ, ce qu'il était, même dans l'Ancien Testament, il était déjà. Bien sûr, il n'était pas encore venu, mais il était toujours le Dieu souverain qui dirigeait toutes choses de son trône. Et c'est pourquoi même l'histoire qui le concernait est arrivée exactement comme Dieu l'avait annoncé au prophète et l'a signalé à travers les types et les prophéties, les promesses pour arriver à Christ. C'est parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sa nature immuable fournit une mesure pour toute conduite des enfants de Dieu, en particulier dans la parole et dans l'adoration. C'est pourquoi nous ne changeons pas notre manière d'adorer, parce que notre but dans l'adoration, c'est quoi? C'est adorer le Seigneur Jésus-Christ. C'est le seul moyen de le poursuivre et de s'approcher de Dieu. Nous ne devons pas nous attendre à quelque chose de nouveau, comme les gens cherchent aujourd'hui, toujours une nouvelle expérience ou bien un soi-disant nouveau Jésus. Non, Jésus est tel et sa nature est telle qu'elle est révélée dans la Bible et c'est la même nature de Jésus qui doit être vu dans l'Église aujourd'hui. Si notre vue du Seigneur Jésus-Christ ne correspond pas avec le Christ de la Bible, donc c'est un faux Jésus. Je dois dire qu'il y a beaucoup de dénominations, congrégations, qui prononcent le nom de Jésus, mais ce n'est pas le Christ qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc voilà le fondement de notre poursuite du Seigneur Jésus-Christ. C'est fondé sur la nature immuable du Seigneur Jésus-Christ. Troisièmement, et nous sommes en train de voir ces moyens que Dieu nous donne ici dans notre texte de poursuivre Christ, c'est de suivre le véritable Christ contre toute opposition. Voilà, à la suite du Christ, c'est de le poursuivre même contre toute opposition. Nous ne devons pas imaginer que suivre Christ signifie maintenant une vie paisible et sans force contraire. C'est pourquoi il dit ici, et nous voyons ici, à partir du verset 9 jusqu'au verset 14, comment différentes et diverses oppositions peuvent, nous devons faire face à ces oppositions, commençant par les doctrines diverses et étrangères. Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères. Christ a dit qu'il est le bon berger et que ses bergers entendent sa voix. Et que ces brebis ne suivent pas la voix des étrangers. Quelle est la voix des étrangers? C'est la voix des prédicateurs qui viennent prêcher de nouvelles doctrines, ou ici, comme c'est écrit, des doctrines diverses et étrangères, chaque fois dans la Bible où vous voyez le mot doctrine au pluriel, cela signifie que c'est une fausse doctrine. Parce que chaque fois que la Bible parle de la véritable doctrine, c'est toujours au singulier. Donc, ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères. Et plus le temps passe, plus nous constatons de nouveaux enseignements qui viennent. Et devant lesquels nous devons faire face et qui seront toujours une attaque contre cette doctrine fixée déjà dans les Écritures concernant Christ. Mais cela provient d'un cœur qui est déjà affermi par la grâce, comme nous avons lu tout à l'heure. La seule manière pour le cœur d'être affermi par la grâce, c'est pour que le Saint-Esprit prenne ce qui est révélé au sujet de Christ ici dans les Écritures et qu'il affermisse cette grâce. Là encore, quand nous voyons le mot grâce dans le verset 9, on peut substituer le nom de Christ parce que c'est en Christ qui est toute la grâce de Dieu. Donc, lisons le passage de cette manière, comme nous avons fait avec la parole de Dieu dans le verset 7. Ça, c'est Christ. Avoir le cœur affermi par Christ. Voilà le sens ici. Et c'est l'œuvre de Christ d'affermir le cœur de ceux pour qui il est venu dans le monde et pour qui il a payé leur dette à la croix. Ici, ce n'est pas une question de suivre, comme beaucoup veulent nous faire comprendre, une liste de règles. C'est ça le sens de ce mot. Non pas des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. Il y avait la loi, mais la loi n'a jamais été donnée comme une règle de vie, ni comme un moyen de salut. Tous ceux qui ont vécu sous la loi sont morts sous la loi, sous la condamnation de la loi. Et c'est pourquoi c'est écrit que suivant ces aliments, ces règlements n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. Non, la loi a été donnée pour un seul but. Premièrement, de démontrer la sainteté absolue de Dieu. Deuxièmement, pour démontrer le péché absolu, la dépravation totale de l'homme face à la loi. Mais troisièmement, de nous conduire à Christ, qui est l'accomplissement de la loi. C'est pourquoi la loi a été donnée pour que l'homme se désespère de toute obéissance à cette loi, mais qu'il regarde à l'obéissance de Christ à son égard. Voilà pourquoi la loi a été donnée. Donc, nous devons suivre le vrai Christ contre toute opposition, que ce soit les doctrines diverses et étrangères que nous allons rencontrer, mais aussi faire face à ceux qui continuent à suivre une voie d'adoration qui n'est pas selon la Bible, comme le verset 10 nous le dit. Ceux qui continuent à servir le tabernacle, mais qui n'avaient pas droit à l'autel. Vous voyez, Christ n'était pas seulement représenté dans le temple, mais aussi dans l'autel du temple et les sacrifices du temple et les sacrificateurs. Christ est tout. C'est pourquoi c'est écrit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Même dans l'Ancien Testament, Christ était prêché à travers ces types qui étaient là. Mais il y avait ceux à qui l'auteur écrit ici, leurs amis et leurs parents, peut-être, qui sont restés dans le judaïsme traditionnel et ils continuaient à suivre ces chefs religieux parce que jusqu'à ce point-là, leurs cœurs n'ont pas été régénérés. Peut-être qu'il y avait encore des élus parmi eux qu'avec le temps, Dieu allait appeler à Christ. Mais lorsqu'il écrit ici, quand il parle de ceux qui font le service au tabernacle, il continue à suivre ces hommes religieux en opposition. Voilà le point que nous sommes en train de voir. Suivre le vrai Christ contre toute opposition. Et je dois dire aujourd'hui, c'est ça qui fait part de la difficulté pour ceux qui sont véritablement en Christ, parce que nous avons toutes ces assemblées traditionnelles avec toutes sortes de doctrines diverses, étrangères, qui continuent à suivre, mais nous ne pouvons pas nous joindre à eux. Mais il faut dire aussi, eux aussi ne peuvent pas se joindre à nous, parce que lorsque nous leur annonçons ce Christ souverain en qui est le salut, c'est entre ses mains et non pas les mains des hommes, ce n'est pas selon le soi-disant libre arbitre de l'homme, mais selon la volonté souveraine de Dieu que nous suivons ce Christ. Ils ne peuvent pas supporter un tel message parce qu'ils veulent une partie de la gloire. Donc cette séparation est nette et claire de deux côtés. Nous ne pouvons pas aller dans leur service pour manger de leur aliment. Mais aussi, puisqu'ils sont encore dans les ténèbres, ils ne peuvent pas se joindre à nous pour adorer le Seigneur à cet autel de son sacrifice, qui n'est autre que sa croix. Essentiellement, notre autel est la croix. C'était l'autel, ici, c'était la pièce maîtresse du temple, mais en Christ, c'est devenu la pièce maîtresse de l'Évangile et de notre compréhension. C'est ce que Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 1 et le verset 18, si vous voulez regarder là avec moi, jusqu'au verset 24. Notons, il dit, car la prédication de la croix, voilà notre autel, est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, et comment est-ce que le pécheur est sauvé? C'est par la mort de Christ. Quand les gens vous demandent aujourd'hui, mais quand est-ce que vous étiez sauvés? Il ne faut pas répondre pour dire, ah, telle ou telle date, j'ai fait ma profession de foi, j'ai pris ma décision. Non, ça ce n'est pas le salut. Le salut est en Christ et dans sa croix. Tous ceux que Dieu a élus depuis l'éternité, il a sauvé à la croix lorsque Christ est mort, lorsque Christ a crié de haute voix, tout est accompli. Voilà le salut. Mais pour eux, c'est une folie, pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'en anéantirai l'intelligence des intelligents. Il s'agit là des hommes religieux, mais qui sont encore sans l'esprit. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants. Comment? Par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles, les Grecs cherchent la sagesse. Nous, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés. tant juif que grec. Voilà le Christ qui est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Et c'est, quand on parle de l'opposition, ce qui s'oppose à nous, il faut savoir comment ils se sont opposés à Christ. C'est écrit là dans le verset 11, que comme les corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrateur pour le péché sont brûlés hors du camp. Ils ont pris les cendres de ces sacrifices et les apportés hors du camp, dans un lieu purifié. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple, par son propre sang, a souffert hors de la porte. Vous savez, Christ n'est pas mort, ils n'ont pas sacrifié dans le temple même. Non, ils l'ont emmené hors du camp. Ils l'ont crucifié sur cette montagne de calvaire qui était réservée pour les pires, les criminels. Christ n'avait pas de péché, mais il s'est identifié avec les transgresseurs. Donc l'opposition qu'il a dû supporter pour les pécheurs tels que nous sommes, ça ne doit pas nous surprendre alors que nous aussi, nous devons sortir hors du camp. Cela veut dire hors de la profession ou bien des dénominations traditionnelles et institutionnelles et s'identifier avec Christ et Christ seul. Voilà comment le Seigneur nous soutient dans cette poursuite de Christ. Et c'est face à toutes sortes d'opprobres, exactement comme Christ. Mais ça ne doit pas nous surprendre, parce que, verset 14, nous n'avons point ici bas de cité permanente. Voilà la poursuite de Christ. Nous cherchons celle qui est à venir. Donc, voilà comment Dieu a ordonné à ce que nous nous identifions avec son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Deux points à toucher encore concernant la suite du Christ. Et le quatrième, c'est que nous devons le suivre comme notre seul sacrifice. Nous n'en avons pas autre. Comme c'est écrit ici dans les versets 15 et 16. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de quoi? De louange. Ce n'est pas qu'il a besoin de quoi que ce soit de nos mains. Mais si véritablement il a fait cette œuvre de grâce, si effectivement notre cœur est affermi par Christ, donc le résultat sera toujours des louanges à Dieu par Jésus-Christ. C'est-à-dire sur la base de la justice de Dieu accomplie, sa justice accomplie pour les pécheurs. Voilà la louange qui plaît à Dieu. Et ce qui plaît à Dieu par son esprit plaît à ses enfants. Dieu est satisfait avec l'offrande de son Fils et nous sommes satisfaits. Donc nous offrons ces louanges comme sacrifice à Dieu. Nous ne nous donnons jamais la gloire, mais toute la gloire revient à Christ. Et c'est cette même grâce qui nous rend bienfaisants dans le verset 16. N'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Nous n'avons aucune raison de s'opposer d'une manière comme le monde s'oppose à nous. Nous comprenons l'état de ceux qui sont encore dans les ténèbres et qui sont encore perdus parce que nous-mêmes, nous étions là. Et c'est ça qui fait que dans nos vies, dans nos marches de tous les jours, lorsque le monde nous oppose, nous-mêmes, en retour, nous démontrons cette bienfaisance et la libéralité. Cela veut dire, c'est la grâce qui nous pousse maintenant à manifester les miséricordes de Dieu envers d'autres, exactement comme Dieu a fait pour nous. Donc c'est de cette manière que nous continuons à poursuivre Christ, le seul sacrifice qui a tout accompli pour nous. Et puis le dernier point, le dernier moyen que Dieu se sert pour préserver chacun de ceux pour qui Christ est mort, c'est dans le verset 17, c'est en nous rendant obéissants, c'est-à-dire en nous soumettant à nos conducteurs et avoir pour eux de la déférence. Cela ne veut pas dire que nous devons les élever plus que tout autre dans nos pensées, mais avoir la déférence à cause du service qu'ils rendent pour Christ. Et de se soumettre à leur enseignement. Pourquoi? Et voilà, verset 17 nous donne ce qui est le vrai but d'un prédicateur de l'Évangile. C'est qu'il veille sur vos âmes comme devant en rendre compte. Pourquoi est-ce que nous ne prêchons pas autre chose que Christ et Christ crucifié, quel que soit notre auditoire? C'est la manière que Dieu nous donne de veiller sur les âmes des hommes. C'est pour leur bien et c'est pour la gloire de Dieu qu'il en soit ainsi, afin qu'il le fasse avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Alors, voilà les moyens que Dieu donne de nous garder, de nous préserver dans cette suite du Christ, qu'il daigne bénir la parole que nous venons d'entendre. Amen.